Bonjour à tous. Donc, nous allons entamer cette seconde leçon sur les matériaux poreux. Et aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de carbone, de matériaux carbonés poreux. Et donc, mon titre, c'est matériaux anciens et nouveaux, parce que le carbone, comme vous le savez, existe depuis la nuit des temps et a déjà été utilisé depuis très longtemps pour certaines de ses propriétés, en particulier ses propriétés d'adsorption et de filtration. Donc, dans une première partie de l'exposé, je vais parler de carbone que j'appelle très ancien ou ancien, c'est un peu de l'histoire, et ensuite je vais vous faire une petite revue sur ce qui se fait dans le domaine des matériaux carbonés poreux depuis, bon, j'irais les 10-15 dernières années. Alors d'abord, matériaux poreux très anciens, bon évidemment, toutes les charbons de bois qui ont été utilisés depuis très longtemps par l'humanité. Ensuite, vous avez en fait, dans ce que j'appelle les carbones poreux simplement anciens, tout ce qui est carbone activé, qui ont été faits donc de façon volontaire par l'homme pour créer de la porosité et des fonctionnalités, et puis ce que j'appelle des carbones modernes, en fait, les carbones mésoporeux, qui sont nés, je dirais, essentiellement dans les 10-15 dernières années. Alors, si on regarde maintenant l'histoire des carbones poreux d'une façon assez large, vous voyez, bon, les premiers carbones ont été utilisés à la préhistoire, mais je dirais essentiellement pour, dans le but de se protéger, de s'alimenter, ou bien dans un but artistique. Mais au niveau de la porosité, en fait, les premiers carbone absorbeur purificateur ont été utilisés dans les années 1500, en fait, en particulier en Antiquité, par les Égyptiens et d'autres. La science du carbone, proprement dite, a commencé à démarrer, je dirais, très très mollement au XVIIIe siècle, et puis de façon plus nette au XIXe siècle, en particulier pour les propriétés d'absorption et de purification. Je vous montrerai quelques exemples. Avec, je dirais, forcément un saut important au niveau de la technologie, je dirais, au début du XXe siècle, pour des raisons que vous connaissez, en particulier la Première Guerre mondiale. Et puis, ils ont été utilisés pendant pas mal d'années comme purificateurs, comme adsorbeurs, en particulier les grandes sociétés qui fabriquaient des antibiotiques, par exemple la streptomycine. Vous avez toute une phase de purification qui se faisait sur charbon actif dans les années, je dirais, 60-70. Et les nouveaux carbones, vous voyez, non seulement avec les nouvelles formes allotropes, mais les nouveaux carbones poreux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, je dirais, qui démarre lentement aux alentours des années 85-90 et puis de façon un peu plus importante au niveau des années 2000. Alors ce renouveau dans le carbone, eh bien, est essentiellement dû aux approches ascendantes, des approches moléculaires, également des approches physiques. Donc il y a eu un investissement scientifique assez conséquent dans cette période-là. Alors on est passé typiquement d'une production de masse, vous voyez, bon, des grandes quantités de carbone, à ce que j'appellerais une production de spécialité plus récemment, parce que là on vise, évidemment, idéalement les gens visent des marchés un peu larges, mais en fait pour l'instant ce sont beaucoup de développements qui se font au niveau des laboratoires de recherche pour l'essentiel. Alors je passe en fait toute cette partie-là d'utilisation du carbone anciennement, je dirais, voyez, pour la purification essentiellement, pour le stockage de l'eau dans les bateaux. Ça, je vous avais déjà raconté ça dans le cours d'il y a 2 ans. Et puis, mais les premiers, je dirais, leurs utilisations du carbone en tant qu'adsorbeur de façon très nette, eh bien, c'est le début du 19e, avec la décoloration du sucre. Vous voyez ensuite tous les processus d'activation qui ont commencé au 19e siècle, puis au 20e siècle, pour augmenter finalement les surfaces et la qualité des carbones utilisés, puis un certain nombre d'applications. Et récemment, c'est ce que je viens de vous dire, des nouvelles formes allotropiques du carbone. C'est ce qu'on appelle l'ère nano, avec des tas de systèmes qui présentent un intérêt, à condition, je vous le dis, qu'ils soient reproductibles. Vous avez eu 6 cours en 2017, et donc il y a des tas d'aspects sur les nanotubes, le graphène, les fullerènes, les nanodiamants, sur lesquels je ne reviendrai pas dans le cadre de cet exposé. Donc rapidement, 19e siècle, un Allemand, chimiste allemand, Achard, utilise finalement du carbone comme adsorbeur séparateur, essentiellement pour purifier finalement, vous voyez, des productions de sucre. Et à ce moment-là, se construisent déjà 2 usines. Ensuite, c'est le choix du motif carboné, en fait. Évidemment, il y a du carbone, je dirais, qui est issu directement des charbons naturels, mais également des carbones issus, en fait, de la carbonisation, par exemple, c'est déjà du biosourcing, hein, de charbon d'os, hein, obtenu à partir des os, etc. Et en 1815, déjà, la majeure partie de l'industrie du raffinage du sucre était basée justement sur du charbon d'os. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été proches d'une usine qui fait du charbon d'os, je peux vous dire que ça sent très mauvais, hein, au passage. Alors, au niveau scientifique, il y a un chimiste français, Bussy, là, qui a commencé, vous voyez, dans les années, également au 19e siècle, à regarder de plus près, finalement, comment on peut commencer à activer le carbone pour jouer un petit peu sur sa surface et sur sa porosité, visiblement via des voies thermiques, typiquement dans cette gamme de température, ou des voies chimiques, évidemment associées à des lavages, et je vais revenir un petit peu là-dessus dans la suite de cet exposé. Mais ça, vous voyez, c'était déjà, je dirais, le début du 19e siècle. Déjà à l'époque, bien que les gens n'avaient pas les contraintes environnementales que l'on a aujourd'hui, les gens faisaient du biosourcé, puisque énormément de carbone provenait de la biomasse. Ça, c'est juste un exemple qui utilise, vous voyez, des noix de coco, en fait, avec des calcinations pour obtenir des charbons activés avec des surfaces qui, aujourd'hui, ont été mesurées, parce qu'à l'époque, on ne savait pas bien les mesurer, qui étaient largement supérieures à 1000 m² par gramme. Alors, donc, il y a eu un certain nombre, je dirais, de chimistes et de physiciens qui sont intervenus, finalement, dans le développement de la science du carbone. Alors, quelqu'un que je souhaite citer, c'est John Senhouse, qui est un chimiste écossais, parce que donc au niveau de l'application, il a développé quelque chose d'assez intéressant au niveau d'une ville, au niveau des égouts de Londres, en développant finalement toute une famille de carbone qui permettait d'absorber les vapeurs, les gaz, etc. Et ce sont ces travaux qui ont donné lieu à la création finalement des premiers masques qui sont basés, en fait, des filtres avec des masques à base de charbon, typiquement. Bon, ça, c'est le générique. Et donc, là, il y avait eu déjà un saut, je dirais, au niveau conceptuel. Et au niveau, je dirais, du grand développement industriel des carbones, au XXe siècle, bon, ils sont souvent rattachés au nom de ce chimiste lituanien qui a développé, je dirais, fait vraiment une production de masse à l'époque de charbon actif. Et en particulier, il y en a un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'éponite, qui a été développée à cette période-là. Alors, ce qui a mis un petit peu, je dirais, ce qui a poussé finalement les recherches, évidemment, c'est ce que j'intitule « Pour le meilleur et pour le pire », c'est la guerre de 14-18, où finalement, il y a eu les premières utilisations de gaz toxique sur les champs de bataille, et là, il y a eu un effort très clair pour développer des charbons poreux adsorbants beaucoup plus efficaces pour, justement, être utilisé dans les respirateurs militaires. Alors, post-1918, eh bien, il y a des nouvelles études qui se font, en particulier pour augmenter les capacités d'absorption et les forces mécaniques. Et puis, 1935-1940, évidemment, à nouveau, il y a des recherches, en fait, qui portent sur les optimisations de ce genre de carbone. Et donc, essentiellement, ce sont des carbones obtenus par activation. Et je reviendrai sur ce point. Alors, au niveau des carbones, et vraiment de la science des carbones, finalement, les modèles associés à l'adsorption ont été développés un peu plus tard. Vous voyez, typiquement au cours des années 1930, à peu près. Bon, la dynamique de l'absorption a été développée au départ par Mecklenburg. Les phénomènes de sorption sur charbon actif, et en particulier le mécanisme que vous connaissez de condensation capillaire, c'est Kubelka qui l'a trouvé en 1931. Et puis la fameuse théorie que vous utilisez tous les jours pour mesurer des surfaces spécifiques, je vous en avais parlé la dernière fois, bon, bah, c'est le modèle BET de Brunauer, Emmett et Teller de 1938. Alors, les applications, je dirais, des carbones relativement anciens, mais qui sont toujours utilisés d'ailleurs, hein, c'est essentiellement des filtres, de l'absorption, des cartouches, vous voyez, des absorbeurs, également, forcément, dans certains processus électrochimiques, on trouve de plus en plus de carbone et de carbone poreux. Alors, si maintenant on regarde les carbones poreux activés, quelles en sont les sources? D'une façon générale, vous voyez, il y a un certain nombre de sources, je dirais, qui sont déjà des sources carboneuses, comme la tourbe, la lignite, mais également un grand nombre de sources biologiques, ce qu'on appelle des sources biosourcées, bon, des feuillages, bien entendu, de la biomasse, d'une façon générale, du bois. Et toutes ces sources-là, finalement, ont été testées après carbonisation pour développer des carbones poreux. Mais je vais vous montrer un exemple où on voit tout de suite la subtilité et la difficulté, finalement, d'utiliser des systèmes biosourcés. Alors, un carbone activé, en général, c'est un carbone qui présente une structure assez complexe, désordonnée et hiérarchique, où vous avez des macropores, donc je les avais définis la dernière fois, avec donc des pores supérieurs à 50 nanomètres. Également, vous avez des mésopores, et puis des tout petits pores qui assurent l'absorption. Donc, les grands pores assurent l'essentiel du transport, les tout petits sont uniquement utiles pour l'absorption, et puis les pores intermédiaires assurent de l'absorption, mais également peuvent contribuer au transport. Si vous voulez une image très simple, en fait, les macropores sont les autoroutes, les mésopores les parkings à voitures, et les micropores les garages pour véhicules à deux roues. En gros, c'est ça. Donc, ça vous donne tout à fait les possibilités diffusionnelles, en fait, des différents systèmes. Alors, au niveau donc, des activations de ces carbones, pour obtenir justement des carbones poreux, il y a deux grandes voies. La voie chimique, bon, qui a déjà été développée vers 1900, en présence de sel de zinc, d'acide phosphorique ou de potasse. Et puis une voie hydrothermale qui a été développée également vers la même époque, mais qui a pris un renouveau en fait, ces dernières années. En général, d'une façon un peu globale, les temps les plus longs génèrent de plus grands pores. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Par exemple, si je regarde des carbones activés, chimiquement, en fait, il y a deux grands modes d'activation. Un mode d'activation via la potasse, en température, puis une calcination sous atmosphère non oxydante, et puis ensuite des lavages. Du côté du phosphate, il y a également un premier traitement en température relativement basse, suivi finalement d'une calcination à nouveau en atmosphère inerte, et ça c'est bien sûr très important puisque vous ne voulez pas perdre votre carbone sous la forme de CO2 de façon trop conséquente. Alors les surfaces sur ces carbones activés, aujourd'hui, si on regarde d'une façon très large, eh bien, c'est déjà très très bien parce que ce sont des surfaces de l'ordre de 1000 à 3000 m² par gramme avec des tailles de pores, voyez, qui sont entre le micropore et le macropore. Ce qui veut dire qu'au niveau universitaire, malgré le grand nombre de travaux scientifiquement très intéressants, si les gens ont en tête de déplacer certains marchés, il va falloir travailler. Parce que quand on a des produits qui ne sont pas chers et qui ont déjà finalement un certain nombre de possibilités au niveau appliqué, eh bien c'est difficile. Mais ça n'empêche pas, de mon point de vue, de faire de la très jolie science avec ces matériaux carbonés. Donc si je reprends simplement l'un des deux exemples, celui à base de potasse, vous voyez, un premier traitement à la potasse à 400, puis une calcination à température un peu plus haute et un lavage, eh bien en fait ça a été étudié par plusieurs groupes, en particulier un groupe industriel japonais, qui produit finalement ces carbones activés. Et donc, voici les réactions qui ont lieu en fait, pendant les processus d'activation. Et l'analyse finalement des gaz qui sortent au cours de cette réaction montre que pratiquement on ne forme pratiquement pas de CO2. Ça veut dire que l'élimination et le carbone qui permet de générer la porosité s'en va essentiellement sous la forme de carbonate de potassium. Et également, à température un peu plus haute, on forme directement du potassium métallique qui, lui, participe également au processus, simplement en exfoliant les systèmes et en créant de la porosité. Donc, ce sont des processus qui sont relativement bien connus aujourd'hui et qui permettent, vous voyez, ça c'est un peu le gold standard, 3100 m² par gramme, c'est beaucoup quand même, avec des tailles de pores et puis des volumes poreux qui sont méso- et microporeux qui sont loin d'être négligeables. Alors, je voudrais vous montrer cet exemple qui est récent. En fait, ça, c'est le professeur Ogal qui travaille à Pune, en Inde. Bon, donc, vous savez qu'ils ont quand même un certain intérêt à développer des systèmes biosourcés. Et c'est une étude qui me paraît intéressante simplement parce qu'elle va vous montrer l'importance de la source de carbone et la difficulté que l'on peut rencontrer à développer justement des carbones biosourcés. Alors, il y avait une première étude qui a été fait sur les feuilles comme biosource en utilisant les feuilles de margousier. En fait, c'est un arbre qui pousse en Inde. Donc, on broie la poudre. Et ensuite, il n'y a aucun traitement d'activation. Il y a simplement, finalement, une calcination à 1000 degrés sous argon, puis un lavage. Et ça donne, en fait, un carbone microporeux, voyez, avec une surface qui est raisonnable, de l'ordre un peu plus de 1000 m² par gramme, qui est conducteur avec des micropores de l'ordre de 5 angstroms. Et au niveau des propriétés, je dirais, électrochimiques, par exemple, qui ont été testées en supercapacité, vous voyez, vous avez quand même une forme qui est très, très intéressante et positive, et puis des valeurs de capacité spécifiques qui sont de 400 farads par gramme, vous voyez, avec des densités d'énergie à des densités de courant qui sont non négligeables. Donc c'est quelque chose qui commence à être un petit peu intéressant. Puis on peut se dire, finalement, il suffit de prendre à peu près n'importe quelle feuille, n'importe quel système, on brûle et on va obtenir les mêmes résultats. Bon, la même équipe a fait une étude, vous voyez, à nouveau sans activation, d'une autre feuille, de la feuille de l'Ashoka, avec des surfaces qui ne sont pas exactement les mêmes. Et là, les capacités spécifiques sont nettement plus basses, elles sont pratiquement à la moitié. Et il n'y a toujours pas d'activation. Alors, ce qu'ils ont fait dans ce travail qui est relativement récent, c'est qu'ils ont comparé finalement leur fameux carbone à d'autres sources qui, elles, ont été activées. Vous voyez, de l'écorce de riz, de la graine de tournesol, du bambou, des grains de maïs, activées avec des moyens chimiques, conséquents, avec des surfaces qui peuvent être à peu près égales, mais bien supérieures. Et toutes les valeurs, finalement, sont, pour certaines, largement en dessous des valeurs, finalement, de capacité. Et en plus, quand on regarde à quelle densité de courant ça se fait, eh bien, ce sont des densités de courant qui peuvent être très faibles, avec donc des capacités bien moins bonnes. Alors, si on revient sur l'explication, finalement, dans l'analyse en fait, par microscopie électronique de ces sources de la feuille du margousier, montre finalement que les feuilles ont une distribution de magnésium et de calcium très, très homogène partout. Et donc, finalement, de façon intrinsèque, il y a déjà les activateurs à l'intérieur. Et donc, ça va dépendre du climat, ça va dépendre du lieu. Donc, ça sous-tend, en fait, mon propos, là, n'a pas plus d'ambition que de vous faire comprendre la difficulté, l'intérêt, bien entendu, d'utiliser des systèmes biosourcés, mais également la difficulté d'obtenir des systèmes qui sont reproductibles. Alors, maintenant, on va passer, je dirais, à des carbones que j'appellerais un peu plus modernes, et qui sont obtenus pour la plupart par réplication de gabarits. Un gabarit, c'est ce qu'on appelle template en anglais, ou moule. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça un peu la pêche au moule, et vous allez voir que la pêche peut être fructueuse. Et donc la source de carbone, c'est un réseau ou une molécule organique, et ensuite il y a un traitement thermique. Alors il y a deux grandes approches. Une première qui utilise des gabarits ou des moules minéraux, silice, argile, alumine. Et puis une seconde qui va utiliser essentiellement de l'auto-assemblage organique-organique. Et donc, en fait, ce sont les premières qui ont été développées au niveau, je dirais, du temporel. En fait, ce sont les premières recherches qui ont été développées. Bien évidemment, c'était peut-être les plus évidentes. Et dans un second temps, vous avez ces recherches qui ont été développées pour obtenir des carbones poreux par auto-assemblage organique-organique. Alors, dans le cas A, la carbonisation a lieu, puis on élimine le gabarit minéral par lavage, alors que dans le cas B, on a une élimination du gabarit et une carbonisation complète qui se fait dans un second temps. Donc, en fait, les exigences pour réussir, les exigences pour avoir un succès, ne sont pas du tout les mêmes. Alors, au niveau des sources organiques, qu'est-ce que l'on trouve ? Évidemment, des sucres, qui utilise l'acide sulfurique comme catalyseur, des résines formophénoliques, ça c'est très souvent utilisé, avec des molécules du type hydroxyméthylfurfural ou autres, qui sont en fait souvent utilisées comme modèle, parce que les dégradations des sucres entraînent souvent comme intermédiaire ce genre de molécules, mais ça peut être également un gaz ou bien des molécules issus du pétrole ou des polyaromatiques. Donc ça, ce sont les sources de carbone qui sont utilisées pour former justement ces carbones poreux. Alors si je reviens sur la première stratégie, où on va utiliser des gabarits minéraux comme, je dirais, moules sacrificiels, eh bien, toujours évidemment, une carbonisation est faite directement en atmosphère non oxydante pour ne pas perdre l'essentiel du carbone. Et puis, il y a une autre façon de faire qui a été, je dirais, remise au goût du jour plus récemment, qui est ce qu'on appelle la carbonisation hydrothermale. Alors, les répliques, qu'est-ce que l'on trouve comme répliques ou gabarits les plus courants? Eh bien, des gels de silice, des particules de silice denses ou poreuses, également des alumines anodisées, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, après la carbonisation, une fois qu'on a carbonisé le système, la partie minérale, en général silice, alumine ou autre, est éliminée par un lavage en milieu basique ou en milieu, je dirais, acide fluorhydrique dilué. Ce sont des choses qui sont assez classiques. Alors, un exemple, vous voyez, de 1986, ce n'est pas tout récent, imprégnation d'un xérogel de silice avec la méthode du canard, hein, que je vous ai raconté la dernière fois, imprégnation par un polymère. On fait un composite silice polymère, on carbonise le polymère dans cette gamme de température, sous, je dirais, en évitant finalement l'oxygène, et ensuite on dissout la silice, vous voyez, pour obtenir des carbones mésoporeux. Vous voyez ici, par microscope électronique en transmission, on voit très nettement finalement la porosité de ces carbones, hein, et on voit également, bon, on obtient des petites billes de carbone, ça se voit en microscopie, en balayage, mais également... finalement, ça permet de générer également une texture à une échelle, je dirais, micronique. Alors, d'autres types de gabarits, les alumines anodisées ou les matériaux laminaires ou les zéolithes ont été utilisés pour faire justement des carbones poreux. Alors, donc, alumines anodisées, ce sont des alumines qui sont élaborées par croissance électrochimique. Donc, l'avantage, c'est que l'on peut faire finalement des systèmes tubulaires dont les pores sont parfaitement calibrés, bon, j'irais de quelques dizaines de nanomètres à des fractions de microns. Donc il y a une grande variété, c'est commercial. Donc puis c'est un gabarit qui est soluble. Et puis il y a d'autres matériaux minéraux tels que les argiles, par exemple. Bon, là c'est un mica qui présente, je vous l'ai dit la dernière fois, des espaces interfeuillets que l'on peut remplir avec de la matière organique que l'on peut carboniser. Et puis, comme en général, c'est de l'aluminium ou des silicates de magnésium ou autres qui sont solubles, eh bien, on élimine très facilement cette partie-là pour, après imprégnation, carbonisation puis lavage, récupérer, vous voyez, dans le cas des alumines anodisées, des nanotubes de carbone pour eux. Et dans le cas des argiles où vous avez des feuillets, vous voyez les structures de carbone qui vont se présenter en feuillet. Après, et finalement, c'est la réplique inverse. Hein, d'accord ? Donc ça, ça a l'air simple. Évidemment... Vous pouvez également jouer sur la source utilisée et de comment vous faites l'imprégnation. Si en utilisant toujours en fait des alumines anodisées, vous faites arriver la source de carbone essentiellement par dépôt en phase vapeur, par CVD, à ce moment-là, ben, vous allez recouvrir finalement uniquement les tubes, hein, et obtenir finalement des nanotubes relativement bien calibrés. Ça, c'est une vue de dessus, je dirais, du composite. Et ça, c'est après lavage. Du gabarit, c'est-à-dire que toute la partie bleue a été éliminée par un lavage en milieu basique ou en milieu acide fluorhydrique dilué. Donc vous obtenez des nanotubes de carbone. Alors voyez un petit peu le type de nanotube que vous obtenez. Bon, c'est 5 microns. Ce ne sont pas des mononanotubes de carbone, bien entendu. Hein. Ce sont des feuillets multiples de nanotubes de carbone, mais c'est intéressant. Ça présente déjà une certaine porosité. Alors vous avez tous entendu parler des pop-corn. Eh bien, il faut savoir que les gens font également des pop carbone. Ça se développe. Alors, la stratégie est la suivante. Vous utilisez un matériau quelconque pour une déposition. Sur ce matériau, vous déposez un polymère conducteur ou un autre matériau conducteur. C'est au choix, mais un polymère conducteur, ça se met en forme facilement. Un ajout de ferrocène, et ensuite, vous passez l'ensemble au micro-ondes. Donc, localement, vous savez que quand vous mettez des conducteurs dans un micro-ondes, il faut éviter en général, hein, si vous ne le faites pas de façon contrôlée, vous avez une décharge très importante et un effet très local de chauffe. Et donc, c'est ce que vous observez ici. En fait, les températures montent jusqu'à 1100 degrés. Mais comme vous avez dégradé le ferrocène et vous avez créé des petites particules de fer, eh bien, tous les gens qui font des nanotubes savent que la formation des nanotubes est catalysée par des petites nanoparticules de différents métaux. Donc, le tour est joué. Et vous obtenez, vous voyez, une matrice revêtue de nanotubes de carbone. Alors, ça peut se faire non seulement avec des polymères conducteurs, mais avec, par exemple, des oxydes conducteurs comme ITO, l'indium tin oxide, qui est un oxyde semi-conducteur. Et donc, on peut, vous voyez, ici, c'est des nanotubes qui ont été formés sur un substrat de ITO. Et ici, ce sont des nanotubes qui ont été formés sur des cendres volantes. Alors vous me direz, bon, pourquoi des cendres volantes? Eh bien, simplement parce que ce sont des matériaux de récupération qui sont intéressants, mais qu'on peut utiliser éventuellement comme liant dans les cimenteries. Et si on ajoute à ces systèmes-là, voyez, des charges fonctionnelles conductrices du point de vue électrique et thermique ou adsorbantes, eh bien, on augmente finalement les possibilités finalement de développement de ces matériaux, par exemple, dans la construction. Ici, à gauche, ce que vous voyez, c'est des cendres volantes qui ont été, je dirais, on a fait des pop carbone autour de cendres volantes. Bon, ça, c'est la photo. Ici, ce sont les clichés de microscopie électronique. Mais ça peut être fait à partir du moment où on amène un conducteur. Ça peut être fait sur à peu près n'importe quel type de substrat. Ici, ce sont des tissus de fibres de verre qui sont rendus conducteurs grâce à justement à cette approche à la technologie. Donc, conduction thermique, électrique et également propriété d'adsorption. Alors, dès qu'on obtient des nanotubes, eh ben, bon, les chimistes, depuis longtemps, savent jouer avec. Hein. Ça, c'est ce que je vous ai raconté déjà dans un cours en 2017. En particulier, si je me restreins simplement à l'aspect porosité des nanotubes, eh bien, on sait très bien aujourd'hui faire des fonctionnalisations internes de ces nanotubes. Et ça a été développé avec, des cobaltocènes, des dérivés de la silice, des nanoparticules métalliques, hein, et en particulier, ce genre d'approche, vous voyez, qui ressemble finalement à une gousse de petits pois. Eh bien, ça, c'est la microscopie électronique, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, aller jusqu'à mettre de façon ordonnée un ensemble de fullerènes dans un nanotube. Donc, en fait, ça, je ne reviendrai pas sur ces aspects-là qui ont été largement développés le 8 février 2017, et vous pouvez aller regarder la vidéo si vous le regardez beaucoup plus précisément, ces aspects. Alors, ça, c'était, je dirais, les méthodes un peu classiques d'utilisation des gabarits de silice. Il y a eu des développements plus récents qui sont en fait basés sur de la carbonisation hydrothermale. Alors, quand on fait l'histoire de la carbonisation hydrothermale, on s'aperçoit que c'est pas nouveau, mais c'est intéressant. Parce que la photosynthèse produit en biomasse 170 milliards de tonnes par an. Donc, c'est quand même une ressource qui est loin d'être négligeable. Alors, les premiers travaux, en fait, qui assuraient finalement la conversion de biomasse en carbone, vous voyez, c'est un prix Nobel dans les années, je dirais, au début du XXe siècle, qui a montré que la cellulose à 200 degrés sous pression ne peut pas se décomposer sous forme de gaz, mais se transforme en carbone. Et à des températures qui sont de l'ordre de 200 degrés. Et donc ça devient intéressant. Ensuite, il y a eu en fait des extensions de ces travaux qui ont montré qu'on pouvait utiliser différentes sources de biomasse et changer les conditions. Il y a eu Van Crevelen qui, dans les années 60, a énormément travaillé en regardant essentiellement les influences du pH, donc de l'acidité du milieu, quelles étaient ses influences sur la transformation, biomasse carbone. Et puis plus récemment, dans les années 2000, il y a le groupe d'Antonietti avec une de ses postdocs, Magda Titirici, qui ont développé finalement de la carbonisation hydrothermale, en particulier en visant à la fois de coupler finalement ces démarches avec des gabarits de silice et également avec pour créer finalement des nouveaux carbones azotés. Je reviendrai à la fin de mon exposé sur l'intérêt du dopage en fait des carbones quand on vise en fait un certain nombre de propriétés. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé de l'ensemble de leurs travaux, mais un travail qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est un travail dans lequel ils ont utilisé un modèle. C'est ce que je vous disais, une des sources de biomasse, en fait, ce sont les carbohydrates. Quand on regarde au niveau mécanistique la décomposition de ces carbohydrates, on voit qu'on forme du glucose et puis un certain nombre de molécules telles que des furanes, des phénols, de la furfuraldéhyde. Et en particulier, il y a une molécule modèle qui est intéressante, vous voyez, qui est l'hydroxyméthylfurfural. Donc, ils ont fait un ensemble de travaux en utilisant comme source de carbone cette molécule, vous voyez, qui présente quand même un certain caractère hydrophile. Et d'ailleurs, si vous ajoutez ça à des billes de silice très, très hydrophiles, eh bien, vous avez une démixtion du système et finalement, le gabarit, dans le cas présent, ne sert à rien. Alors, ils ont fait une étude soigneuse en utilisant finalement comme source modèle cette molécule, l'hydroxyméthylfurfural, et puis des silices qui étaient poreuses, vous voyez, des silices qui ont présenté des porosités de l'ordre de 10 nanomètres au niveau de la taille des pores, et puis des tailles, je dirais, relativement régulières de l'ordre de 10 microns. Alors, ce qu'ils ont fait au cours de cette étude, c'est qu'ils ont fait différents types de carbone poreux, et en particulier, ils ont étudié quelles étaient les morphologies et textures obtenues en fonction des modifications qu'on pouvait faire autour de ce gabarit. Alors, on obtient en fonction de ces modifications, vous voyez, des moules carbonées macroporeux, des nanoparticules isolées, des particules totalement mésoporeuses, de carbone, hein, bien sûr, ou bien des particules creuses à couronne mésoporeuse. Et donc, en fait, leur étude montre un petit peu, finalement, au niveau du procédé, quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer. Alors ça, c'est une slide qui est peut-être un peu compliquée, donc, mais je vais essayer de la présenter le plus simplement possible. Ceci représente la cellule, la silice mésoporeuse qui est utilisée au départ. Et donc, cette silice mésoporeuse peut être rendue hydrophobe de différentes façons. Une des façons, c'est de la coupler avec, vous voyez, ce triméthylchlorosilane, puisque vous avez une phase très, très hydrophobe. Et donc, si vous faites un système totalement hydrophobe, eh bien, évidemment, bah, le précurseur hydrophile a du mal à pénétrer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est un moule externe avec les particules, bien évidemment. Et voilà ce que vous obtenez, donc un moule carboné macroporeux. Et vous avez les empreintes des particules. Ça, c'est une possibilité. Par contre, si vous hydrophobez cette silice que partiellement, et partiellement hydrophobé, ça veut dire que vous allez le faire par un post-greffage, et tous les spécialistes savent que le post-greffage est loin d'être homogène. Et en général, vous n'hydrophobez que le début en fait, de la particule. Hein. Donc ça, c'est une façon de faire. Et donc, à nouveau, si vous allez au bout de en fait, carbonisation plus lavage, etc., qu'est-ce que vous obtenez comme système? Eh bien, vous voyez, vous allez carboniser finalement toute la couronne de silice où vous avez réussi à pénétrer avec la source de carbone. Et puis, ce sont des particules creuses. Hein. Ça, c'est une autre possibilité. Une autre façon d'hydrophober de la silice, c'est en fait d'enlever des hydroxyles. Mais ce n'est pas du tout la même qualité la même qualité au niveau hydrophobe dans ce cas-là. Et donc, vous pouvez vous permettre différents remplissages avec ce précurseur. Donc, tant que vous restez dans des remplissages, je dirais, inférieurs à 60% volumique, eh bien, vous allez obtenir, après carbonisation, vous allez obtenir des carbones poreux, cette fois-ci, où vous allez vraiment utiliser toute la porosité accessible. Et puis, vous allez rester sous forme de nanoparticules. Ça, ce sont les nanoparticules de carbone vues par microscopie électronique en balayage. Et ici, ce sont la porosité qui n'est pas parfaite, puisque ce n'était pas une porosité organisée au départ, mais on voit bien que le système est mésoporeux. Et troisième option, eh bien, c'est vous remplissez de façon beaucoup plus conséquente cette silice déshydroxylée. À ce moment-là, là, vous allez pouvoir commencer à nucléer carrément des grains de carbone. Et ce que vous observez, ben, c'est ça. Ce sont des grains de carbone, des nanoparticules de carbone qui ont clairement nucléé. Donc ça vous montre un petit peu déjà, finalement, les options que l'on a. Et ça, c'est toujours mon discours, on ne peut pas décorréler en matériaux la chimie et le procédé. Hein, c'est ce que je répète tout le temps, mais on ne peut pas décorréler la chimie et le procédé. Et tant qu'on, si on décorrèle ça, on ne fait pas du matériau. Alors, les autres approches, hein, donc de gabarit de silice à mésoporosité ordonnée maintenant, hein, donc cette fois-ci, on ne va pas utiliser des silices à porosité, je dirais, aléatoire, désordonnée, mais des systèmes bien contrôlés. Et pour ça, ben, on va les fabriquer en utilisant essentiellement des milieux micellaires. Et ça, on avait vu ça la dernière fois dans mon dernier cours. Hein. Je vous avais dit, ben, une des façons de faire ces milieux micellaires, hein, c'est d'utiliser finalement des tensioactifs pour former ces micelles. Hein. Et donc, en fait, on va remplir finalement ces micelles de silice hein, avec une source de carbone. Et puis ensuite, bon, on va carboniser. Puis, in fine, on va, je dirais, éliminer la silice. Ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de nanomoulage, mais en utilisant finalement des moules où les pores sont parfaitement calibrés. Alors, la deuxième façon de faire, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de faire de l'auto-assemblage, toujours avec des sources équivalentes. Hein, ce sont toujours, par exemple, des résines formophénoliques. Mais cette fois-ci, finalement, l'organisation du milieu micellaire est rendue, finalement, par un polymère amphiphile qui s'auto-assemble. Et donc, vous devez éliminer, finalement, les micelles et ensuite atteindre une étape de carbonisation. Alors, les milieux micellaires, juste un petit rappel par rapport au cours de la dernière fois, en fait, sont basés de molécules amphiphiles avec des affinités différentes. Par exemple, une partie, je dirais, paraffinique qui n'aime pas l'eau et une partie hydrophile, une tête polaire. Hein, très souvent, ça peut être un ammonium, par exemple. Et donc, au niveau thermodynamique, ces systèmes s'assemblent justement pour créer ces micelles. Et les parties polaires vont se tournent vers l'eau et les parties apolaires ont tendance à se regrouper entre elles. Et ces molécules amphiphiles, eh bien, les types d'empaquetement que l'on observe vont dépendre essentiellement, vous voyez, d'un paramètre géométrique qui tient compte finalement de A0, qui est la surface de la partie polaire, et du volume finalement de la partie apolaire. Et donc en fait, si vous favorisez la partie polaire ou la partie hydrophobe, eh bien, vous allez pouvoir, en faisant varier finalement la géométrie de votre système, vous allez pouvoir finalement faire varier la courbure de la micelle correspondante. C'est ce que j'ai illustré sur ce transparent, vous voyez. Lorsque finalement la balance hydrophile est plus forte, vous augmentez la balance hydrophile dans votre tension active, vous avez tendance à augmenter la courbure, et donc vous pouvez obtenir, vous voyez, des systèmes sphériques qui ensuite vont s'empaqueter pour former des cristaux liquides, par exemple cubiques, ou des micelles cylindriques, ou des bicouches, ou des phases lamellaires. Et donc ça va dépendre de comment vous contrôlez par différentes méthodes, je dirais, à la fois chimiques et physico-chimiques, finalement, cette tendance, en fait, cette balance hydrophile-hydrophobe de votre molécule tensioactive. Et donc ça peut se coupler, c'est un transparent que je vous ai montré la dernière fois, à une source de silice qui, via de la chimie tous, va polymériser. La source de silice, ce sont ces petits tétraèdres bleus qui vont condenser, et puis ils vont condenser puisque... Après avoir éliminé les premiers groupements, ces petits tétraèdres sont hydrophiles, ils vont se condenser sur les petits hydrophiles des micelles pour aller former, vous voyez, des phases organisées au niveau de la porosité. Et quand vous lavez la partie jaune qui correspond finalement au savon, à la molécule amphiphile, vous récupérez, vous voyez, une structure mésoporeuse organisée. Ça, c'est ce que je vous ai déjà montré la dernière fois. Et ça se caractérise très bien par diffraction des rayons X. Ou par microscopie électronique, on voit très clairement la mosaïque de trous en plus clair qui sont parfaitement identiques. Alors, l'une des limitations, finalement, de ces silices mésoporeuses, hein, en particulier en utilisant des tensioactifs moléculaires, c'est que, d'une part, eh bien, dans certains cas, on voudrait éliminer, finalement, les faces cylindriques, simplement parce que si vous les déposez sur un substrat, ben, vous avez des accessibilités réduites. Avec des systèmes moléculaires, ben, vous êtes un peu limité sur la taille des micelles, donc vous êtes obligé d'utiliser des agents de gonflement, et donc généralement ce sont quand même des porosités relativement petites que vous obtenez, et puis à nouveau, ben, l'épaisseur des parois avec des milieux micellaires, je dirais, moléculaires, ben, elle n'est pas très très épaisse, et donc vous avez souvent une stabilité réduite. Alors quels sont les remèdes un peu ? Le remède à ça, ben, c'est de choisir finalement une courbure, donc une chimie, de telle façon à obtenir des mésophases bicontinues et cubiques, où vous allez avoir une accessibilité complète. Utiliser des amphiphiles de plus grande taille, dans ce cas-là, et dans ce cas-là aussi. Et donc, le remède, eh bien, c'est d'optimiser le contraste de l'amphiphile, stabilité thermique du tensioactif. Et là, il y a des familles de matériaux, de composés, pardon, qui finalement répondent à ce genre d'obligations, ce sont tous les copolymères à bloc. Hein, et en particulier, bon, vous voyez, ce sont des images qui représentent un certain nombre de copolymères à bloc. Un copolymère à bloc, vous voyez, ce sont des blocs de polymères, polystyrène, polyéthylène, cobutylène, polyméthylmétacrylate, qui présentent finalement des affinités différentes. Et finalement, il y a une tendance, je dirais, à la ghettoisation des domaines, si je veux faire un peu de sciences sociales. C'est-à-dire que chacun vit sa vie, mais de façon organisée. Et donc, vous obtenez des phases assez diverses. Hein, ça, ce sont des travaux assez anciens. Et dans le cadre, finalement, des carbones mésoporeux et des silices mésoporeuses, un des polymères à bloc qui est très fortement utilisé, c'est ce qu'on appelle des pluroniques, où vous avez, finalement, vous voyez, des systèmes à base d'éther, avec une partie hydrophobe, rendue hydrophobe par les méthyles, et des parties hydrophiles. Donc le bleu est hydrophile, le rouge est hydrophobe, et ainsi de suite. Et ça, quand vous les mettez dans l'eau, eh bien, ça va former des micelles. Alors l'avantage, c'est que vous voyez, vous pouvez jouer sur la taille des blocs. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sur la balance hydrophile-hydrophobe. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sur les problèmes de courbure plus facilement. Ça veut dire aussi que vous pouvez jouer sur la taille des pores, puisque vous pouvez jouer sur la taille, finalement, de votre micelle. Alors, vous pouvez obtenir, évidemment, des systèmes hexagonaux, mais vous voyez des systèmes cubiques interconnectés de différentes, avec différents types de structures. Et ça, ce sont des clichés de microscopie électronique. Et ce que l'on voit ici, ce sont les données par diffraction des rayons X, puisque vous avez finalement une certaine périodicité dans tous ces systèmes, et que même si le mur n'est pas cristallisé, c'est ce que je vous disais la dernière fois, vous avez une réponse, puisque la matière voit, puisque votre diffractomètre voit de la matière et du vide de façon organisée. Donc vous allez obtenir finalement ce genre de... Et donc obtenir essentiellement des silices mésoporeuses qui vont être les moules qui vont être utilisés. Alors, l'un des premiers travaux, en fait, ça a été fait par des cohéréens, par le groupe de Rio, qui a utilisé, vous voyez, une silice cubique. Je ne rentre pas dans les détails, une silice cubique. Imprégner cette silice cubique avec une source de sucre, un sucrose, un catalyseur acide sulfurique. Ensuite, carbonisation sous atmosphère inerte. Et puis, un lavage à l'eau basique. Et voici la structure carbonée qui est obtenue, qui a été appelée CMK1, vous voyez, avec des surfaces spécifiques assez intéressantes, des tailles de pore de 3 nanomètres. En fait, ce que vous faites, c'est la réplique. CMK1, c'est simplement l'appellation, je crois que ça doit dire Carbon Mesoporous Made at Korean Institute of Advanced Science ou quelque chose de ce genre. Hein. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous développez des systèmes qui sont très très bien organisés. Alors, il y a eu énormément d'études qui ont été faites par cette équipe-là autour, finalement, de l'optimisation de ces carbones mésoporeux. Alors, ici, si je reviens sur mon transparent, vous voyez, le gabarit qui a été utilisé, c'est un gabarit avec des tensioactifs, des savons moléculaires. Et donc, vous avez des parois qui sont assez minces. Et donc, ce système-là donne de très jolies photos, mais est loin d'être optimum. Et donc, si on veut finalement augmenter la qualité finalement du matériau obtenu, eh bien, on peut obtenir cela avec des gabarits plus performants. Par exemple, c'est un bloc copolymère que l'on va, gonfler avec du butanol de telle façon à ajuster la courbure, c'est exactement sur la même phase. Mais cette fois-ci, comme le bloc copolymère permet d'obtenir des murs beaucoup plus larges, vous allez obtenir à peu près les mêmes structures, mais de façon beaucoup plus... des mêmes structures avec des matériaux beaucoup plus solides. Et donc, en fonction de la source, c'est-à-dire que si vous faites simplement une imprégnation de cette silice que vous carbonisez et que vous lavez, vous allez obtenir, vous voyez, des tiges, hein, c'est à nouveau un CMK numéro 8, avec ces propriétés-là au niveau des surfaces. Par contre, si vous utilisez une source... je dirais par un envoi, je dirais gazeux et pyrolyse sous vide, à ce moment-là, vous allez simplement recouvrir les parois, finalement, de cette structure de silice, et en particulier laisser possible la connectivité intertube. Et donc, vous voyez, vous allez obtenir d'une part deux types de tailles de pore et puis des surfaces spécifiques qui vont être déjà beaucoup plus conséquentes. Et donc là, le chimiste, quand il voit ça, il sait que il peut, je dirais, jouer avec cet ensemble de paramètres. Alors, les fameuses silices hexagonales, qui, elles, étaient moins intéressantes au niveau de l'accessibilité, eh bien, en fonction du choix, à nouveau, du tensioactif, vous allez avoir, à l'arrivée, après imprégnation, pyrolyse, je reviens, et puis lavage, différents types de carbone. En particulier, si vous utilisez, en fait, des tensioactifs qui sont moléculaires, là, finalement, vous allez avoir des cubes totalement décorrélés. Par contre, si vous utilisez des polymères amphiphiles du type, je dirais, pluronique, bon, ça, on connaît ça depuis longtemps, en fait, les structures sont un peu plus complexes parce que, finalement, les bras hydrophiles pénètrent un petit peu dans les murs et donc ça permet de donner de la connectivité, finalement, au système et une meilleure tenue. Alors, c'est ce que je représente ici. En haut, on choisit un gabarit qui va donner des cylindres de ce type-là. Et donc, finalement, tous les tubes sont pratiquement non connectés. Et vous allez obtenir un ensemble de tubes décorrélés. Mais si vous voulez avoir un matériau qui a une certaine tenue, à ce moment-là, vous utilisez des tensioactifs à base de copolymère à bloc, typiquement ça. Ces parties bleues, là, que j'ai idéalisées, eh bien, il y a une partie qui pénètre dans les murs. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir une connectivité entre vos cylindres. Hein, ce que j'ai dessiné là de façon assez simpliste. Hein. Et donc ça, ça va donner une certaine tenue aux matériaux. Donc à nouveau, la chimie, d'une façon générale, va être la même, mais ici, le procédé va jouer énormément sur la qualité du matériau. Alors après, vous pouvez, par exemple, changer les rapports entre la source de silice et la quantité d'amphiphiles de polymère à bloc que vous utilisez pour obtenir des parois plus ou moins grandes. Évidemment, quand vous avez des parois épaisses, vous n'allez pas pouvoir faire de connexion avec des parois plus fines. Vous allez pouvoir obtenir des pores un petit peu plus minces. Et tout ça, ça s'ajuste en fonction du procédé et des conditions opératoires que vous utilisez. Donc ça, c'est un des derniers exemples du groupe à nouveau de Rio, les Coréens. Vous voyez, c'est une autre phase qui est obtenue à partir, cette fois-ci, d'une phase hexagonale de système, hein, à nouveau en utilisant du sucrose et de l'acide sulfurique, mais cette fois-ci en utilisant des gabarits à base de polymères à bloc. Et vous voyez la qualité, finalement, de la structuration du carbone, des surfaces, vous voyez, à nouveau de 1500 m² par gramme, et puis des volumes poreux qui sont relativement intéressants. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc des répliques sur des gabarits en silice. Hein. Alors, il y a quand même un certain nombre de désavantages, hein, sur lesquels je vais revenir. Mais la deuxième voie, vous voyez, de mon point de vue, me paraît, bon, d'une part, un peu plus innovante par rapport à tous les travaux qui avaient été faits antérieurement, et puis elle présente un certain nombre d'avantages. Donc la deuxième voie, elle consiste en quoi? Je vais utiliser toujours une source de carbone, une résine formophénolique, de la thermopolymérisation, puis élimination de la phase micellaire, et puis ensuite je vais carboniser mon système. Donc je vais rester totalement, depuis le début jusqu'à la fin, sur des systèmes purement organiques-organiques. Alors, les limites que l'on voyait avec la silice, je n'en cite que trois. D'une part, il y avait des labages obligatoires avec, je dirais, des composés chimiques pour éliminer la silice, en particulier le HF, qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. Le carbone, dans ces cas-là, correspond à la structure inverse du gabarit. On n'a pas de structure directe, d'accord ? Et puis, les épaisseurs du mur, des murs du gabarit, c'est-à-dire la silice que vous utilisez, déterminent la taille des pores du carbone, d'accord ? Donc, ça fait quand même un certain nombre de contraintes, des contraintes, je dirais, un peu environnementales, et puis d'autres types de contraintes, il y a moins de souplesse. Alors, il y a, essentiellement, ça a été développé par l'équipe de Dong Zhuangzhou à Fudan, et également par un autre Chinois qui travaille aux États-Unis à Oak Ridge National Laboratory, DAI. Ils ont justement développé des synthèses totalement basées sur l'organique. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en l'utilisation de blocs copolymères amphiphiles, voyez, bon, avec des parties hydrophobes ici en rouge et des parties hydrophiles en bleu, et puis des résines formophénoliques, une étape de thermopolymérisation, l'élimination des micelles et de la carbonisation. Et tout ça, ça doit être parfaitement orchestré. Évidemment, il faut un processus d'auto-assemblage entre la résine formophénolique qui devrait décorer l'extérieur et puis les micelles qui sont formées. Alors, le succès, finalement, de ces systèmes mésoporeux, dont les surfaces varient finalement entre 300 et 1500 m² par gramme, avec des tailles de pores de 3 à 30 nanomètres qui peuvent être ajustables, eh bien, il y a trois conditions minimum pour que ça marche bien. D'une part, le copolymère doit micelliser et l'un des blocs doit établir des interactions favorables avec le précurseur du réseau carboné. Donc, il faut bien décorer le système. Donc, interaction favorable. Le précurseur doit réticuler le précurseur de la phase carbonée facilement afin d'établir un pré-réseau stable et rigide qui peut supporter l'élimination du gabarit micellaire, du bloc copolymère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les mêmes dégradations, en fait, la même sensibilité à la dégradation pour les deux phases. Et puis, je répète, donc une meilleure stabilité thermique des précurseurs organiques de la phase carbonée finale par rapport à celle du gabarit micellaire. Alors, pour remplir la première condition, l'affinité entre le bloc copolymère que l'on va utiliser et, la phase carbonée, eh bien, les précurseurs qui sont les plus intéressants, ce sont les résines formophénoliques, et en particulier celles qui sont faites à partir de polyphénols, parce qu'une fois que vous condensez en fait, ces polyphénols avec le formaldéhyde, eh bien, il vous reste toujours un grand nombre de fonctions hydroxy qui vont venir faire des liaisons hydrogène, finalement, avec la phase polaire du copolymère à bloc. Donc ça, c'est une façon d'assurer, vous voyez, après polymérisation, d'assurer finalement un accrochage relativement correct de la résine sur le copolymère à bloc et sur la partie externe. La condition 2, c'est que le précurseur doit réticuler facilement afin d'établir un pré-réseau stable. Donc, l'élimination des gabarits micellaires qui sont utilisés aujourd'hui, eh ben, c'est une élimination qui se fait de façon thermique, thermique évidemment sans air, aux alentours de 350-400 degrés. Donc, en fait, l'une des solutions, c'est de prendre des résines qui polymérisent en 3D, pas des lacs linéaires. Et en général, le traitement thermique est fait à une température modérée, voyez, mais sur un long temps. Donc ça, c'est une façon d'opérer. Alors, quels sont les systèmes blocopolymères qui sont utilisés? Eh bien, bon, il y en a un certain nombre. Les parties rouges représentent la partie hydrophobe et les parties bleues, la partie hydrophile. Donc ça, ce sont les polymères classiques type pluronique dont je vous ai parlé. Il peut y avoir également des systèmes à base de polystyrène avec des têtes PEO, polyhexyde d'éthylène, ou des polystyrènes avec des têtes polyvinylpyridine, qui sont également hydrophobes. Et bien entendu, chacun de ces polymères à bloc ont des températures de décomposition qui sont variables, mais qui restent, je dirais, dans un domaine de température relativement stable, alors que les résines formophénoliques 3D sont stables dans ces domaines de température. Donc voilà une façon de faire, je dirais, une fois que l'on a éliminé le template, avec des températures longues, de l'ordre de 350 degrés, mais des temps relativement longs. Ensuite, une carbonisation à température, on obtient des carbones amorphes qui sont différents très clairement des carbones graphitiques. Ça ne veut pas dire parce que spectroscopie, par exemple, Raman, vous voyez des carbones SP2, ça ne veut pas dire que vous avez du graphite. Et très souvent, dans les articles, il faut faire attention parce qu'il y a d'énormes confusions là-dessus, mais ça change énormément les propriétés. Si vous voulez vraiment obtenir une phase graphitique avec des plans et de l'ordre dans la deuxième dimension, en général, il faut aller taper des températures qui sont au-dessus de 2000 degrés. Donc, quand vous voyez sur un article graphitisation, 800 degrés, 1000 degrés, ça ne veut rien dire. Faites attention pour les étudiants qui sont là. Alors, une des façons de faire, bon, un travail que j'ai trouvé assez joli de Dai, vous voyez, ce qu'il fait, c'est qu'il dépose, dans un premier temps, un copolymère à bloc, polystyrène, polypyridine, c'est ce polymère-là. Il dépose pour faire un film. Ensuite, ce film forme des copolymères à bloc, mais il faut arriver à orienter finalement la porosité vers l'extérieur. Et ça se fait par ce qu'on appelle un recuit de solvant à 80 degrés. Vous avez finalement, vous orientez un peu la séparation de phase dans ce sens. Vous remplissez avec une résine formophénolique le système. Et ensuite, ben, vous suivez les étapes, je dirais, classiques de polymérisation, d'élimination du gabarit et de carbonisation. Et ce que vous obtenez, vous voyez ce qu'il a obtenu, ce sont des films. Vous voyez la qualité, finalement, de la mésostructure. Hein, des films, vous voyez, avec des épaisseurs variables, des pores avec des porosités de l'ordre de 34 nanomètres et des parois de 9 nanomètres. Vous voyez, avec des degrés d'organisation qui sont relativement bien conséquents. Et ça, c'est un peu l'intérêt d'utiliser des blocs copolymères robustes. Hein. Finalement, c'est mieux que ce que vous utilisez habituellement au laboratoire, par exemple, les pluroniques. C'est beaucoup mieux d'utiliser ce genre de polymère. Alors, une autre façon de faire, en fait, c'est d'utiliser ces systèmes, mais en jouant sur la courbure, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, vous allez faire une première condensation entre un phénol et puis un formaldéhyde pour obtenir un précurseur, c'est-à-dire une résine polymère qu'on va appeler un résol, symbolisé par ces petites boules bleues. Et puis, vous allez les mettre finalement en face, deux copolymères à bloc dans l'alcool. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, en fonction, pendant le processus d'évaporation, en fonction du copolymère que vous allez choisir, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire varier le rapport hydrophile-hydrophobe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis, comme vous avez un système phénolique qui vient s'accrocher sur la partie hydrophile, eh bien, en fonction du rapport phénol-bloc copolymère, vous allez également pouvoir jouer sur la courbure. C'est assez fin, mais enfin astucieux, mais vous pouvez jouer sur la courbure, mais en contrôlant parfaitement ces paramètres, vous obtenez finalement des systèmes cylindriques ou des systèmes sphériques qui vont donner finalement des phases interconnectées dans ce cas-là, ou des phases, je dirais, hexagonales dans ce cas-là. Et après, bon, vous avez toujours la même démarche, d'une première calcination pour enlever finalement le gabarit, le polymère à bloc, et une seconde carbonisation, toujours sous azote ou sous argon, pour obtenir le carbone mésoporeux. Alors vous voyez, la première étape, on obtient des matériaux qui sont manipulables, ce ne sont pas de la vue de l'esprit, ça c'est le matériau qui a été fait avant traitement thermique, ça ressemble un peu à un plastique. Hein, et ensuite, après calcination, vous obtenez donc différents types de carbone. Vous voyez les surfaces et la taille de pore obtenue. Ça, ce sont les données de microscopie électronique vues sous différentes orientations, où on voit, par exemple, dans ce cas-là, on voit bien les pores de façon transverse, et là, on les voit par ce côté-là. Vous voyez, dans ce sens, vous voyez bien les pores ponctués. Alors, d'autres faces peuvent être entretenues, et on peut jouer, bien entendu, sur... sur tous ces paramètres-là qui permettent d'ajuster finement à nouveau, je dirais, le paramètre d'empaquetement et donc la courbure, le type de phase. Donc là, ce sont des études qui ont été faites à nouveau par le groupe de Zhao de façon très, très systématique et très, très propre en faisant varier de façon continue tous les paramètres pour obtenir finalement des phases un petit peu sur mesure. Alors ça, c'est un exemple que j'ai bien aimé parce que c'est le début de création, finalement, d'une structure hiérarchique. Et ça, ça peut se faire de façon assez simple. Le gabarit, le polymère à bloc qui va donner, finalement, lieu à l'organisation, c'est quelque chose de classique, un système à base de polyoxyde d'éthylène, polyoxyde de propylène, vous voyez, c'est le classique. Mais il y a un petit ajout qui est, en fait, un petit peu de polyoxyde d'éthylène libre, de moléculaire. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une partie de cette molécule va avoir tendance à modifier, je dirais, très localement la structure mésoporeuse et la taille des pores, mais une partie, si vous augmentez la quantité de polyoxyde d'éthylène moléculaire, eh bien, il va y avoir une meilleure affinité de cette molécule hydrophile vers l'eau. Et ce que vous allez obtenir, finalement, c'est un système micellaire où cette petite molécule qui n'a l'air de rien va à la fois modifier un peu la courbure à ce niveau-là, mais également va démixer, donc va faire une seconde phase riche en eau et en PEO. Et donc vous allez avoir un mélange à la fois d'auto-organisation via les polymères à bloc et de séparation de phase à cause de cet ajout-là. Et donc vous allez obtenir des macropores et des mésopores, bien entendu élimination de la partie organique qui ne sert pas à former le carbone, avec exactement les méthodes, je dirais, que j'ai précédemment citées, et calcination sous azote pour obtenir la phase carbonée. Vous voyez, donc en fait, ça, c'est un cliché de microscopie électronique en balayage qui vous montre des gros pores. En fait, ça, c'est le travail qu'a fait cet individu-là en présence d'eau, donc la démixion, la séparation de phase. Et ici, vous voyez les mésopores, en fait, qui sont associés à la formation, au travail qu'a fait le gabarit, je dirais, à base de copolymère à bloc. Alors, c'est toujours la même équipe, je voudrais citer encore ce travail, parce qu'en en fait, il y a eu une très nette amélioration sur le choix des copolymères à bloc. En fait, la plupart des travaux que vous voyez dans la littérature utilisent finalement des copolymères à bloc à base de polyoxyde d'éthylène et polyoxyde et de PPO. Pourquoi ? Parce que c'est commercial, parce que c'est simple. Cette équipe a quand même, améliorer finalement la qualité des matériaux obtenus simplement en faisant des copolymères à bloc en interne, dans le laboratoire. Et ça se fait, je dirais, assez facilement via des synthèses polymériques, ce qu'on appelle atome transfert radical polymérisation, où vous utilisez le bout, par exemple, le bout hydrophile, PO ici. Il y a une première réaction de couplage pour le dérivé bromé. Et à partir du dérivé bromé, en utilisant un catalyseur au cuivre, vous pouvez contrôler parfaitement la taille du brin de polystyrène que vous allez former. Et donc ça se fait relativement bien au niveau d'un laboratoire de synthèse en polymère, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un laboratoire de classique de matériaux. Et donc ils ont quand même fait l'effort d'aller faire la synthèse de ce genre, alors que ce n'est pas du tout leur domaine. Et donc ça leur a permis d'ouvrir finalement de nouvelles voies. Alors les avantages de ces polymères, je dirais, beaucoup plus hydrophobes, c'est que d'une part on peut les synthétiser au laboratoire, puisqu'ils y sont arrivés, que le contraste hydrophile-hydrophobe est beaucoup plus marqué, qu'on micellise à plus faible concentration, que la température de transition vitreuse, par exemple, du bloc polystyrène, elle se fait à haute température, alors que le système classique se fait à basse température. Ça veut dire que le système se ramollit très vite. On peut beaucoup moins jouer sur l'espace temps-température, on obtient des missiles à cœur rigide, et puis que malgré tout, si c'est du polystyrène, et ben, malgré que ça soit un cœur rigide, on a toujours de la mobilité moléculaire, et on peut gonfler ce cœur hydrophobe, par exemple, avec un petit oligomère à base de polystyrène. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait, vous voyez, en partant d'un système polystyrène-polyhexyde d'éthylène, en rajoutant un petit oligomère de polystyrène, en fonction des quantités de polystyrène, eh bien, on peut obtenir différentes phases, simplement, à nouveau, parce qu'on joue sur la courbure et on joue également sur les aspects de séparation de phase. Donc, sans ce petit oligomère, de façon très stable, on va vers, vous voyez, ces structures, interconnectées après calcination. C'est toujours la même structure in fine, hein, globalement. Lorsqu'on en rajoute, eh bien, on peut gonfler et obtenir des pores plus gros. Si on en rajoute trop, eh bien, on va à la fois gonfler, mais également avoir à nouveau le même phénomène que je vous ai décrit tout à l'heure, une démixion. Et donc, vous allez obtenir une séparation de phase et vous allez obtenir deux tailles de pores. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. Taille avec un petit peu de groupement, pores d'une certaine taille, classique mais stable, beaucoup plus robuste que toutes les autres synthèses. Si vous augmentez un petit peu le taux de cet oligomère, eh bien vous jouez sur la taille des pores, vous les obtenez trop gros. Et puis si vous en mettez trop, eh bien vous gardez à la fois une taille de pore mésopore et puis vous faites une séparation de phase. Donc en direct, vous obtenez une structure hiérarchique. Alors je le répète, pourquoi c'est intéressant les structures hiérarchiques? Simplement parce que dans beaucoup d'applications, vous avez besoin, c'est l'histoire des autoroutes et des garages à vélo, vous avez besoin de grands pores pour limiter les aspects diffusionnels. Et de surface et de plus petits pores pour effectuer les réactions que vous avez besoin de faire. Donc c'est loin d'être innocent. Voyez les surfaces, et typiquement bon, les volumes poreux, et puis ici une double distribution de pores, des mésopores et puis des petits macropores. Alors voilà un autre système à structure hiérarchique qui est basé finalement sur l'utilisation de billes de latex, bien calibrées, hein, c'est ce qu'on utilise pour faire des cristaux colloïdaux, mais cette fois-ci, on va utiliser un ensemble de billes de latex qui vont s'empacter, vous voyez, de façon très propre et très ordonnée, et puis on va les infiltrer avec des blocs copolymères qui vont donner des micelles, des résines, etc. Ensuite, des étapes d'élimination des copolymères à blocs et du latex, puis de la carbonisation. Donc, en fait, la seule différence par rapport à ce que je vous ai montré, c'est qu'on utilise un premier gabarit de latex pour créer finalement une structure à une plus grande échelle. Donc on obtient les matériaux carbonés. Voilà ce que ça donne au niveau du carbone une fois qu'on a tout enlevé. Ça, ce sont des pores, enfin, ce sont les répliques des latex. Et ici, vous avez finalement l'interconnexion associée grâce aux mésopores créés par les blocs copolymères. Donc des surfaces qui ne sont pas énormes, avec des pores de 3 nanomètres et puis des macropores de 350 nanomètres. Je dirais que c'est plus la stratégie qui m'a paru intéressante. Là, je passe parce que je ne voudrais pas être trop long. Alors, au niveau des applications de ces carbones mésoporeux, ben, je vais vous en citer quelques-unes. Bon, ben, évidemment, il y a de la surface, ce n'est pas très cher. En plus, ces carbones, on peut contrôler relativement correctement la taille des pores et les fonctionnalisations de surface. Et donc, on peut en faire, par exemple, des capteurs à l'ammoniac avec des mesures basées sur la résistance, puisqu'en général, les carbones sont conducteurs. Sauf que les carbones, c'est très facile à fonctionnaliser. Il suffit d'un petit traitement acide pour les fonctionnaliser en surface avec des COH. Et donc, vous avez finalement non seulement un carbone conducteur, mais également vous avez des sites de surface qui vont présenter une bonne affinité pour l'ammoniac. Et ce que vous voyez ici, c'est la réponse en fonction du temps de ce capteur soumis à l'ammoniac. C'est une réponse en résistance. Et vous voyez, vous avez une réponse qui est très nette et rapide, justement parce que finalement, vous avez également une bonne absorption de l'ammoniac sur ces carbones poreux. Et au niveau de la sélectivité, eh bien, vous avez une sélectivité qui n'est pas de 100%, bien entendu, mais qui est beaucoup plus nette pour l'ammoniac par rapport à d'autres gaz, en particulier par rapport au CO2 ou à d'autres types de gaz, simplement parce que vous avez une surface qui est modifiée et que vous avez finalement un couple acide-base que vous faites en surface. Alors, d'autres systèmes mésoporeux carbonés pour faire, par exemple, des anodes pour batterie au lithium, et là, eh bien, on va jouer avec un ensemble de gabarits, à nouveau les fameuses billes de polystyrène, puis les petites billes de silice comme gabarit, premier processus d'auto-assemblage, ensuite une première étape de calcination pour garder finalement la structure de silice, mais dans lesquels vous avez déjà imprimé finalement des gros trous, des gros pores associés aux billes de latex, infiltration d'un polymère, carbonisation, lavage pour obtenir un matériau de ce type. Alors ça, c'est un dessin, évidemment. Surface, pas trop mal, 1120 m² par gramme. Et vous voyez la qualité de la structure obtenue dans ce cas-là. C'est quand même assez, assez agréable, assez joli. Hein, ce que vous voyez là, ce sont les trous associés aux billes de latex. Ça, ce sont les fenêtres d'interconnexion. Et les petits trous que vous voyez ici, ben, ce sont les trous associés à la silice. Alors, quand ces matériaux-là, justement, l'intérêt d'avoir un système avec des gros trous et des petits trous pour favoriser la diffusion, maintenant, si vous comparez ce matériau avec 1120 m² de surface et un matériau qui est très joli, qui est un des matériaux que je vous ai montré au départ, mésoporeux, avec 1100 m² de surface, donc les surfaces sont à peu près équivalentes, mais là, vous avez une double distribution de pores, ici, vous avez simplement des pores mésoporeux, vous les comparez, par exemple, dans la réponse de la capacité spécifique en fonction du nombre de cycles ou la capacité spécifique en fonction du courant spécifique, eh bien vous voyez que c'est très joli dans les deux cas, mais au niveau de la réponse, eh bien, le système qui a une facilité diffusionnelle présente tout de suite des propriétés, je dirais, électrochimiques qui se trouvent clairement au-dessus. Hein, et ça, c'est dû finalement à cette structure biphasique que l'on peut créer grâce à ces deux gabarits qui sont conjoints. Donc, capacité spécifique après 80 cycles, c'est pas mal. C'est à une forte densité de courant. Et en fait, même après un certain nombre de cycles, vous êtes encore à des capacités qui restent raisonnables. Et donc, en fait, ce n'est pas que la beauté du matériau qui joue dans la propriété, c'est aussi, finalement, ces facteurs d'interconnexion et de créer, finalement, des structures hiérarchiques. Donc, ces nanocarbones mésoporeux, on peut en faire des systèmes particuliers. Et donc ça, le carbone, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas toxique. Là, ce que vous voyez, ce sont des clichés de microscopie en balayage. Et là, vous voyez un peu plus le détail de la porosité parce que c'est la microscopie qui est faite en transmission. Et donc ça, ces carbones, on peut les charger avec un principe actif et puis essayer de délivrer des médicaments. Alors ça, c'est un exemple où les chercheurs ont essayé, dans des cellules cancéreuses, ont essayé de délivrer, vous voyez, des oligo-DNA qui sont des molécules négativement chargées. Ce que vous voyez ici, c'est la microscopie confocale. Le bleu, c'est le bleu d'api qui sert à colorer les noyaux. Ça, c'est un colorant alexafluor qui sert à colorer, je dirais, le liquide à l'intérieur de la cellule, le cytosol. Et ici, donc, vous voyez l'effet. Alors, bon, la cellule seule, c'est le blanc. Lorsque vous injectez le système de oligo-DNA directement seul, ben, il n'y a rien qui se passe, simplement parce que c'est une molécule négativement chargée et que vous avez un potentiel de membrane qui est fortement négatif. Par contre, lorsque vous protégez finalement ce principe actif, vous voyez clairement qu'il rentre dans la cellule, et ça, c'est la photo de superposée. Voilà, donc en fait, ce sont également des systèmes qui sont non toxiques. On n'a pas forcément besoin d'une fonctionnalisation de surface sur les carbones. Et puis, finalement, on peut étendre finalement ce genre de stratégie, non seulement à des médicaments, mais à d'autres types de systèmes, des gènes, des protéines. Alors, quelques exemples pour finir qui vous montrent finalement la richesse de ces approches sur des matériaux carbonés. Eh bien, ces histoires de carbonisation, ben, on peut les associer à des gabarits qui vont être des isomères optiques qui vont présenter une certaine chiralité. Donc, lorsque vous formez finalement, par exemple, un polypyrrole, c'est un polymère où vous polymérisez cette molécule azotée en présence d'un agent qui sert essentiellement à déclencher la polymérisation oxydative. Donc, il faut avoir une possibilité d'oxydoréduction. Eh bien, vous pouvez vous servir finalement de la formation du cristal liquide chiral formé par ce lipide amphiphile, qui est symbolisé ici. Vous recouvrez finalement ce liquide amphiphile avec le polypyrrole, simplement parce que vous avez des groupements carboxylates ici qui vont venir interagir par des interactions électrostatiques avec les groupements amines, avec les groupements aminés en fait, du polypyrrole. Et donc vous avez finalement une réplique chirale qui peut se faire. Après, ben, carbonisation, bien entendu, sous argon, et vous obtenez des nanotubes chiro si tout se passe bien. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça, ce sont les clichés de microscopie électronique en balayage qui vous montrent que vous gardez finalement les hélicoïdes gauche ou droit en fonction du choix que vous avez fait sur la biomolécule, j'irais, qui présente en fait cette isomérie optique au départ. Et ça, ce sont finalement, vous voyez ici, la porosité, puisque vous avez libéré finalement une quantité d'organique. Et en plus, ça a été testé, c'est pas simplement de la porosité avec de la chiralité visuelle, ça a été également testé par dichroïsme circulaire en réflexance diffuse, et en effet, ces carbones présentent une certaine chiralité. Alors si je résume, aujourd'hui, ce qu'on sait faire avec, en couplant chimie douce, matière molle, auto-assemblage et carbonisation, en fait, c'est un peu une légochimie sans fin. On peut faire plein d'assemblages différents, avec plus ou moins de réussite, mais on peut faire des choses assez intéressantes, que ce soit vers la silice ou que ce soit vers les carbones. Alors là, je vous présente simplement un certain nombre de photos. Vous voyez des systèmes corps-shell carbonés, des systèmes, des boules avec plein de poils, ou des systèmes plus lisses, des corps-shell mieux définis, ou des cubes avec des structures, beaucoup plus géométriques, ou bien des systèmes de filaments. Vous voyez des systèmes corps-shell à trois niveaux. Ça, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui de façon assez commune dans la littérature de la plupart des journaux qui décrivent de la chimie des matériaux. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de matériaux dans ce genre, donc c'est ce que j'appelle une légochimie sans fin, mais il faut quand même que cette légochimie serve à quelque chose. En particulier, si vous créez par exemple des structures corps-couronne et que vous arrivez, c'est le cas, à implémenter dans cette partie centrale des particules magnétiques, vous allez pouvoir vous servir de cette particule comme d'un adsorbeur pour la dépollution, et puis ensuite la partie magnétique va vous permettre de faire le tri. C'est ce que vous voyez ici, ça c'est une silice mésoporeuse, ça c'est le système qui a été en présence de polluants, on rajoute les particules et l'aimant, et donc en fait vous enlevez finalement la totalité des particules qui sont collées sur l'aimant. Donc ça permet finalement un triage, une séparation qui peut être plus facile. Alors, pour finir sur les matériaux carbonés, les matériaux carbonés, il y a une richesse qui est énorme. Nanotubes, des mésocarbones, des carbones activés, des matériaux à base de graphénique, les fameux oignons ou bien des mousses carbonées. Donc, il y a une richesse à la fois sur les variétés allotropes et également sur les mises en forme qui est énorme. Alors, quand on regarde de façon avec un peu plus de distance, ces matériaux carbonés, à quoi ils servent ? Les carbones que j'appellerais purs, mais avec, vous voyez, des guillemets quand même, en général, ils sont utiles dans la déshydrogénation du propane, les problèmes d'absorption de colorants, de purification de l'eau ou bien d'antibiotiques, par exemple, l'administration de médicaments, les applications cliniques. Ça, c'est une partie des carbones. La partie qui est très intéressante, très riche, mais beaucoup plus difficile, c'est tout le reste. C'est-à-dire que ces carbones peuvent être fonctionnalisés avec des éléments, des éléments métalliques ou des éléments, du type métalloïde ou des fonctionnalités. Et qu'en fonction de cette fonctionnalisation, vous allez pouvoir générer tout un ensemble de propriétés très, très intéressantes. Alors, l'une des difficultés de tout ça, ça c'est joli, ça va être la reproductibilité. Parce que vous trouvez dans la littérature beaucoup de travaux et beaucoup de gens qui se crêpent le chignon, pour parler simplement, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les résultats. Je pense que, vu la complexité de ces systèmes, ils font finalement des matériaux différents. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver, voyez, comme propriété dans ce sens-là, avec des métaux ? Eh bien, bon, des matériaux d'électrode, des matériaux pour la capture du CO2, puisque là, vous allez générer un peu de basicité, de l'électrocatalyse, du magnétisme, de l'absorption. Et du côté des hétéroéléments, vous allez faire de l'adsorption sélective, ça c'est bon avec des groupements carboxylates. Vous allez pouvoir également générer des réactions de catalyse qui ont besoin d'une forte acidité de surface, avec du bore, de la supercapacité, avec du phosphore, la catalyse acide, de l'isopropanol, également des supercaps, avec du fluor, de l'électrocatalyse, ça c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature, avec de l'azote, réduction de l'oxygène, et puis de la capture de CO2. Et l'azote en particulier est un élément qui est énormément travaillé, mais qui est encore très très mal compris. Alors, en conclusion, ces carbones poreux, bon, la nature et la texture des carbones poreux, vous voyez, c'est un peu une longue histoire sans fin. On peut faire aujourd'hui des matériaux peu coûteux pouvant être biosourcés, mais attention à la biosource, et tout n'est pas égal, je dirais. Les carbones amorphes, même après calcination, montrent des enchaînements SP2, mais il ne faut pas confondre cela avec des graphites. c'est autre chose. Ce sont souvent ce qu'on appelle des graphènes-like, des pseudo-graphènes avec de nombreux défauts. Il y a une richesse très claire au niveau de la chimie et des matériaux sur le nombre de fonctionnalisations qui sont possibles. Et il y a des éléments, vous voyez, qui sont particulièrement intéressants parce qu'il y a des fortes modifications des propriétés obtenues simplement par l'inclusion dans les structures de ce genre d'hétéroéléments. Ça, c'est un travail de 1986 qui discutait déjà de ce que c'est qu'un carbone carbonisé à cette température-là et ce que c'est réellement qu'un carbone graphitisé. 1986, ils avaient déjà vu très clairement ce qui était correct, enfin, ce qui était une phase et ce qui était l'autre. Alors que vous lisez la littérature à partir des années 2000, et là, ça devient souvent un peu n'importe quoi. Parce que tout le monde parle de graphite, machin. Non, c'est pas du tout ça. Il faut faire attention, c'est ça que je veux dire. Alors, deux derniers exemples. Vous voyez des utilisations finalement d'une source de carbone azotée et puis d'un gabarit de silice, polymérisation auto-assemblage. On déclenche la polymérisation de la polyaniline avec à nouveau le persulfate d'ammonium, hein, donc il faut un couple d'oxydoréduction, pour ensuite entraîner dans une deuxième étape la carbonisation à 900 degrés et lavage des silices. Et donc voilà ce qu'on obtient, des particules de taille variable, puisqu'on peut jouer sur la taille de la silice, hein, 42, 22, 7 nanomètres. Donc on obtient des particules variables et des tailles variables de pores, avec, vous voyez, des surfaces qui peuvent être variées, avec des volumes poreux qui ne sont pas négligeables. Ça, c'est une façon de faire. Mais, en fait, quand on teste ces systèmes, puisqu'il y a de l'azote, et je vais revenir sur le rôle de l'azote, on les teste, par exemple, en électrocatalyse sans métaux, entre guillemets, je vais revenir là-dessus, en milieu basique, eh bien, bon, pour cette réaction-là, donc les réactions de réduction de l'oxygène, eh bien, on trouve que les systèmes sont très actifs, avec des potentiels de demi-vagues proches à 0,78 par rapport aux platines sur carbone qui est à 0,85, vous voyez, des courants de diffusion qui sont conséquents, une haute sélectivité puisque globalement le nombre d'électrons est proche de 4, vous voyez, c'est 3,86. Ces systèmes ne varient pas leurs propriétés en présence d'alcool, en particulier du méthanol, et présentent une très bonne stabilité. D'autre part, ça c'est au niveau de la réaction d'électrocatalyse, mais au niveau des supercapacités, vous avez des capacités spécifiques qui ne sont pas négligeables, qui sont intéressantes. Alors, il y a des grandes bagarres actuellement dans la littérature. Si vous lisez des articles relativement récents, vous voyez, ça c'est un article à Science, photocatalyse sans métaux. D'accord ? Truc génial, qui n'a pas de métaux. Et là, ça c'est un article à PNAS. Les routes de synthèse contaminent les graphènes de façon non contrôlée avec des éléments métalliques. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Quand vous lisez des articles ou quand vous voyez des résultats exceptionnels, pensez toujours à faire le travail de fond, de regarder comment ça a été fait, les matières premières, etc. C'est important parce que finalement, même si ce sont deux journaux, je dirais, relativement connus, vous voyez, il peut y avoir des bagarres des positions. Alors le rôle de l'azote, je voudrais simplement le commenter à base de deux travaux qui ont été faits récemment, deux revues qui ont été faites récemment par le groupe de Corma et par le groupe d'Antonietti, en collaboration d'ailleurs. C'est sur le rôle de l'azote. Alors il y a une vue un peu simpliste, mais qui est, je dirais, suffisamment pédagogique pour être comprise. Lorsque vous regardez, par exemple, le potentiel standard de certains couples, et donc si vous les classez par rapport au niveau du vide, et par rapport à deux réactions, je dirais la transformation hydrogène-proton et la transformation oxygène vers la molécule d'eau, vous avez ici deux potentiels standards qui sont 0 et 1,23 volts. Ça, c'est quelque chose de classique. Ce qui veut dire que tous les matériaux qui sont au-dessus de ce trait bleu vont être corrodés lorsqu'on les met en présence d'eau. Et tous les matériaux qui sont en dessous de ce trait rouge devraient être nobles, ils ne s'oxydent pas. Alors vous voyez d'ailleurs, à la limite des systèmes nobles, eh ben, vous avez bon, l'or, on sait tous que c'est un métal noble, vous avez le platine qui est un petit peu borderline, simplement parce que lui, il est stable pour des raisons cinétiques. Ça, c'est purement de la thermodynamique, hein, ce genre de diagramme. Par contre, vous avez les carbones nobles, en particulier les carbones azotés, qui ont une orbitale ou un niveau d'énergie occupé très bas. Donc c'est un système qui va avoir énormément de balles à donner ses électrons. Et donc ça veut dire que c'est un système qui ne s'oxydera pas ou très difficilement. Et donc l'apport des hétéroéléments dans les carbones, là il y a une voie, je dirais, de stratégie chimique intéressante qui s'ouvre. Alors quand vous comparez maintenant, ça c'est le boulot qu'ont fait qui a été fait dans l'équipe d'antidiétique, quand vous comparez un carbone fait à partir de molécules, voyez, organiques, qui ne contiennent pas d'azote, eh bien, lorsque vous regardez le résultat obtenu dans les mêmes conditions de calcination et de chimie, eh bien, vous obtenez un carbone noir classique qui est non noble et qui est réducteur. C'est-à-dire que vous obtenez un carbone classique. Par contre, si vous ajustez les conditions de telle façon à avoir des molécules dans lesquelles vous avez, voyez, des hétéroéléments, en particulier de l'azote, à ce moment-là, vous allez obtenir un carbone. D'ailleurs, vous voyez, il y a presque un éclat métallique pour ce genre de carbone. Hein ? Et donc, vous allez obtenir un carbone qui, lui, est noble et est beaucoup plus difficile à oxyder que les carbones traditionnels. Alors ça ouvre de très larges portes et de très larges discussions, parce que l'analyse, je dirais, de ces matériaux montre que, très souvent, en fait, il y a toujours des plans de carbone, je dirais, de cycles aromatiques qui sont conjugués, avec, par exemple, de l'azote qui peut utiliser différents types de positions. Alors, vous imaginez, en fait, le contrôle de ces matériaux-là, c'est quelque chose de difficile, mais on comprend très bien, c'est ce qui est déjà commencé à être décrit dans la littérature, qu'en fonction des positions de l'azote, eh bien, vous n'allez pas avoir les mêmes propriétés à l'arrivée. Ça paraît évident pour les chimistes. Mais comment contrôler ça de façon reproductible ? Eh bien, ça, je le laisse faire aux plus jeunes qui sont dans l'assemblée. Parce que si on arrive à faire ça de façon reproductible, on va limiter l'oxydation, on va avoir des systèmes qui présentent une meilleure conductivité, une meilleure mouillabilité, et on va finalement réussir à optimiser des matériaux qui, de mon point de vue, sont peu coûteux et intéressants. Et aujourd'hui, il y a un gros débat là-dessus, simplement parce qu'on a du mal à être reproductible, parce qu'on ne contrôle pas tout, parce qu'on ne caractérise pas suffisamment bien. Mais je pense qu'il y a une porte ouverte intéressante. Alors, les matériaux carbonés dans leur ensemble, eh bien, vous voyez, on peut aujourd'hui en faire des matériaux poreux, j'irais un petit peu à la carte, avec des propriétés intéressantes, soit comme référence, soit comme adsorbant en pharmacie, médecine, en cosmétique, ou en chromatographie, des supports bon, pour la catalyse ou de la photocatalyse. Évidemment, tous les domaines de l'énergie sont intéressés parce que, in fine, le carbone, ce n'est pas un matériau coûteux. Mais la difficulté, c'est que c'est un matériau qui a l'air simple, mais qui est compliqué. Et donc, ça demande énormément du travail au niveau des laboratoires, au niveau de faire une vraie, véritable science du carbone, avec le niveau de complexité que je viens de vous montrer dans l'heure précédente. Voilà. Donc, n'oubliez pas que il y aura un colloque assez large sur les matériaux le 22 février, et je vous remercie pour votre attention.